Voilà, bonjour.
Vous allez bien?
C'est bien, gloire à Dieu. Où est-ce que j'ai mis ma Bible? Ah, c'était, il y avait un petit cœur qui disait ça. Non, jamais, non, jamais, je n'oublierai ma Bible. En plus de ça, c'était chez Molenda, on chantait ça. Puis après, en polonais, après les frères, après les sœurs, hein, en italien. Ah, chez Molenda, les cultes, ça durait très longtemps. C'était toujours plein de joie. S'il nous écoute, que Dieu vous bénisse. Bonjour les Molenda. On va lire 2 Corinthiens chapitre 12 ce matin. 2 Corinthiens 12. Versets 10 à 12. Alors je lis toujours dans ma version la parole vivante d'Alfred Kuhn. Alors, verset 10. Je trouve ma joie dans les souffrances, les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service de Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Voilà que je viens de me comporter en insensé. Hein. Il dit, voilà, ça y est, je me confais le fou, je dis des bêtises. Mais c'est vous qui m'y avez contraint, voyez l'apôtre Paul, hein? Vous auriez dû intervenir en ma faveur et plaider pour ma défense. Car bien que je sois rien devant Dieu, je ne me sens sur aucun point inférieur à vos supers apôtres. Les marques distinctives de mon apostolat ont été produites parmi vous. Vous avez pu les vérifier de vos yeux. Miracles, prodiges, actes démontrant l'intervention d'une puissance surnaturelle, tout cela au milieu d'épreuves supportées avec une patience inlassable, une constante à toute épreuve. Eh bien, l'apôtre Paul, il savait de quoi il parlait, et on le comprend. Au commencement, les frères et sœurs, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y a eu une rébellion contre Dieu. Et des millions d'êtres déchus ont été chassés de la présence de Dieu, et ces êtres vivants vivent toujours dans chaque ville, dans chaque hameau, et en particulier dans les endroits où se trouvent les enfants de Dieu. Prions. Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ces choses spirituelles afin que nous puissions vivre comme des vainqueurs, non pas seulement comme des vainqueurs, mais véritablement vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pensez que ces êtres déchus sont autour de vous sans essayer quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez qu'ils dorment? Ou alors qu'ils ont une réunion le dimanche matin, puis le reste du temps, ben non, voilà. Hein? Est-ce que vous croyez qu'ils ne sont pas organisés pour accomplir l'œuvre qui est la leur? Je vous le dis, mes frères et sœurs, nous avons une guerre à mener. Nous avons une guerre à mener, véritablement. Contre ces esprits, on ne peut pas y échapper. Et ces esprits entrent dans des personnes pour nous faire la guerre. Mais ce sont les esprits qui font ça, ce n'est pas les gens. Les gens sont des victimes, très souvent consentantes. Mais bon, ce sont des esprits. Qu'est-ce qu'ils vous font? Eh bien, ils essayent de vous inciter à faire ce qui n'est pas bien et à prendre des mauvaises positions. Ces esprits seraient ravis s'ils pouvaient vous faire croire que vous êtes des gens importants, que vous êtes plus intelligents que les autres. Ils seraient ravis de nous diviser, ils seraient ravis de nous mettre les uns contre les autres. Ils seraient ravis de pouvoir nous faire confesser les péchés des autres plutôt que les nôtres. On doit faire attention à soi-même, mes frères et sœurs, et aider aussi les autres, bien sûr, mais d'abord, faire attention à soi-même. Je dois le faire, vous devez le faire, nous devons le faire. Vous savez, le diable ne va pas arriver avec ses gros pieds pour mettre une division avec quelque chose d'énorme. Ça commence toujours par des broutilles. Ah, rappelez-vous, c'est malheureux, mais c'était des juifs. En Israël, dans le désert, ça a commencé les problèmes avec la bouffe. C'est toujours comme ça, les petits détails, la bouffe. Et puis ça s'est amplifié, ils ont murmuré, ils ont commencé à râler, ils ont commencé à critiquer le serviteur de Dieu, puis c'en est arrivé au point où, ben, voilà, Dieu a dû les châtier. Mes frères et sœurs, si nos yeux sont ouverts pour comprendre les choses de Dieu, son plan, alors nous pouvons comprendre notre propre responsabilité, nous pouvons comprendre aussi les pouvoirs de notre prêtrise. Si nos yeux sont ouverts pour comprendre les choses de Dieu, nous pouvons comprendre les rapports que nous avons avec notre Sauveur, avec notre Seigneur, et cela nous rend humbles. Soyez humbles, soyez sur vos gardes, priez, prenez garde à l'orgueil de ne pas, afin de ne pas tomber comme ceux qui sont tombés. Il y a deux grandes vertus, forces, qui donnent à l'homme et à la femme de Dieu du pouvoir auprès du ciel quand ils prient. C'est l'intégrité et la pureté. Mais si vous vous croyez intègre, vous n'êtes pas dans l'humilité. Si vous vous croyez pur, vous n'êtes pas dans l'humilité. À moins que votre intégrité et votre pureté, vous avez conscience qu'elle vous vient de Dieu. Parce que vous vous êtes repenti, parce que vous vous êtes humilié sous sa puissante main, et parce que vous êtes dans l'obéissance à sa parole, et parce que vous êtes dans la soumission à l'ordre établi dans l'Église.
Moi, je suis intègre.
Non, t'es orgueilleux. Si quelqu'un possède ses vertus, et si son cœur est fidèle et ferme, et s'il ajoute l'humilité, alors il sera protégé. Sinon, Que pouic. C'est pas parce que vous invoquez le sang de Jésus que vous êtes protégé. J'entends souvent ça dans les églises. Le sang de Christ. Et ils pensent que parce qu'ils invoquent le sang de Christ, ils vont être protégés. Ce n'est que si vous êtes intègre, pur et humble que vous êtes protégé. Protégé contre une multitude de faiblesses, protégé contre une foule de tentations, et nous avons tous des faiblesses. Ne priez pas pour que Dieu vous les enlève, mes frères et sœurs, ces faiblesses. C'est lui qui permet que vous ayez des faiblesses pour que vous appreniez, pour que nous apprenions ensemble l'humilité en nous-mêmes et l'amour les uns envers les autres. Celui qui voit la faiblesse chez l'autre et qui se met à en parler à gauche, à droite, il oublie qu'il est faible lui-même. Ben, c'est une forme d'orgueil. Vous le savez bien, aucun de nous n'est parfait, tandis qu'il demeure encore dans cette condition mortelle, dans la chair. Mais celui et celle qui a, avec confiance en Dieu, ne bronche pas dans ses défenses pour défendre le bien, mais défendre le bien avec amour. Parce que vous avez aussi des gens qui vous balancent des versets bibliques, mais c'est terrifiant. L'autre jour, il y a eu des morts là-bas, en Nouvelle-Zélande, dans une mosquée, et il y avait toutes sortes de chrétiens qui donnaient leur avis. Et quelqu'un a balancé « Oui, mais vous devez avoir l'amour pour vos ennemis, et parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais c'est contre les esprits et tout. » C'est tout à fait juste. Mais je disais à cette femme « Mais si ça vous arrive à vous, comment vous allez les aimer, vos ennemis ?» Il faut réfléchir aussi avant de dire, avant de balancer des versets comme ça, façon Job, vous voyez. Pas Job, mais de façon ami de Job. Il faut prendre la défense du bien, c'est sûr, mais on ne peut pas ne pas être offensé, outré, scandalisé, épouvanté par ce que ces hommes de chair et de sang font, et les bénir en plus. Bon, évidemment, Jésus dit « aime ton prochain », c'est-à-dire celui qui est tout proche. Mais là-bas, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est loin. C'est pas nous prochains, c'est loin. Mais si ça vous arrive à vous, à quelqu'un de proche de vous, il faut réfléchir. Il ne faut pas broncher dans la défense du bien, mais il faut le faire encore avec humilité, avec amour et avec raison. Ne flanche pas dans ton allégeance à la vérité. Garde inviolées les alliances que tu as faites avec Dieu. Alors celui-ci, celui-là, ceux qui font ça, eh bien, on peut prendre du temps pour les admirer. On peut prendre du temps pour nous efforcer, avec l'aide de Dieu, de les imiter, comme Paul. Moi, j'imite Paul, parce que c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Par exemple, tiens, on parle de gens qui sont concernés. Jésus était avec ses apôtres qui étaient faibles dans une barque. Il était là et Jésus a calmé la tempête. Lui, il avait le droit ensuite de leur faire un reproche au sujet de leur manque de foi, parce que lui, il avait été dans la tempête. Lui, il avait calmé la tempête. Lui, il savait. Mais ces gens qui vivent confortablement derrière leur clavier et qui viennent balancer des versets pour reprendre les chrétiens qui sont outrés de voir des massacres, des choses épouvantables à coups de versets bibliques, c'est tellement facile, c'est des petits bourgeois. Non. Réfléchissez. Que dire dans ces temps troublés et qui vont se troubler encore davantage? Eh bien, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être fidèles, de garder les commandements de Dieu qu'on trouve dans la Bible, d'être humble et de l'invoquer avec ferveur. Alors tout ira bien pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuve, mais dans l'épreuve, nous serons dans la paix. Dieu est avec ce peuple, il est aussi avec ce peuple qui écoute sa voix, qui obéit à ses commandements, qui s'humilie devant lui, et ce peuple-là a une paix qui règne malgré les attaques du diable, malgré les attaques de tous ces mauvais esprits qui rôdent partout, et malgré les personnes possédées de ces mauvais esprits qui font des problèmes partout. Et la raison de cette paix, c'est que Dieu est notre Père, il est notre ami, mais il est aussi notre législateur. S'il n'est pas votre législateur, si vous n'obéissez pas à ses règles, vous ne pouvez pas prétendre à la paix. Il est votre libérateur, oui, mais il est aussi votre législateur. Prenez ne serait-ce que l'évangile de Matthieu. Vous prenez un stabilo jaune, ça ne marche pas avec le rouge. Ou le vert. Non, vous prenez un stabilo de n'importe quelle couleur et vous soulignez tous les commandements impératifs de Jésus. Vous allez voir s'il n'y a pas de commandement. Vous allez voir s'il n'est pas un législateur. Vous savez, si Dieu ne peut pas soutenir son œuvre, ce n'est pas nous qui allons y arriver avec nos efforts. Mais voilà, il soutient son œuvre comme il l'a toujours fait et il le fera jusqu'à la fin. Son œuvre, pas celle de ceux qui essayent de le servir. Alors ne craignez pas si vous êtes dans l'intégrité que Dieu vous a donnée, dans la justice que Dieu vous a donnée, dans l'humilité que Dieu vous a donnée et que vous réalisez. Ne craignez pas, continuez à avoir confiance au Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas, vos prières montent nuit et jour vers le Seigneur notre Dieu. Il les écoute, demandez ce que vous voulez, il répondra si ce que vous demandez est juste. C'est là que se trouve notre force. C'est pas simplement d'avoir la foi dans sa parole, et puis de balancer des versets, et d'invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Non. C'est un vécu. Je parle ici de celui qui est humble, pas de celui qui se croit pur, qui se croit intègre. Je parle de celui qui est humble, mais qui est humble au point de savoir se repentir pour recevoir sa pureté des mains même de Dieu. Votre pureté, elle est une souillure devant Dieu, votre pureté personnelle. Tous les efforts que vous faites pour ne pas faire des bêtises, c'est rien si vous n'avez pas été purifié par le sang de Jésus-Christ. Vous devez recevoir cette pureté des mains même de Dieu et y croire. Croire que vous l'avez reçue et son intégrité. Vous ne pouvez pas être intègre, entier, sans repentir et sans avoir reçu par la foi l'intégrité que Dieu donne à ceux qui s'humilient. Ce humble-là pourra être fier. Ça fait drôle hein, de dire ça. Mais ce humble-là pourra être fier. Fier de quoi? Fier de ses infirmités, fier de ses faiblesses. Parce que ce n'est que celui ou celle qui se reconnaît faible qui peut recevoir la puissance de Jésus. Seul celui qui est humble au point d'être fier de ses faiblesses confessées, celui-là pourra devenir l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez savoir si vous êtes humble selon le cœur de Dieu ? Observez où se trouve la source de votre joie. Paul disait, je trouve ma joie, donc la source de ma joie, dans les souffrances, dans les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses. Quoi ? Paul, un angoissé ? Eh oui, Paul était un angoissé. Quoi ? Paul dans la détresse, oui, mais l'Éternel est tout puissant pour le... Paul était dans des détresses, il était angoissé, eh oui, mais de quelle sorte de détresse, de quelle sorte d'angoisse? Il était angoissé parce qu'il était au service de Dieu, en détresse parce qu'il servait Dieu, pas en détresse parce qu'il avait fait des bêtises, pas en détresse parce qu'il était arrivé dans une église et qu'il avait fait son malin et créé une division. Non. Il n'était pas angoissé parce qu'il avait fait des crétineries et des péchés, ni dans la détresse parce qu'il avait fait des mauvaises choses. Ou des mauvais choix. Non. Souvenez-vous de ce que je vous disais l'autre jour. Quand une personne est orgueilleuse, ce ne sont pas les démons qui l'attaquent, c'est Dieu qui lui résiste. Arrêtez de chasser les démons. C'est pas les démons qui vous attaquent, c'est Dieu qui vous résiste parce que vous êtes orgueilleux. Faites le point. Regardez en vous-même. Est-ce que je suis orgueilleux? Il ne faut pas se tromper par des faux raisonnements. Pourquoi est-ce que vous êtes angoissé? Pourquoi est-ce que vous êtes insulté? Pourquoi est-ce que vous êtes abandonné? Pourquoi est-ce que vous êtes dans les infirmités, dans les détresses, dans les privations, dans les persécutions? Est-ce que c'est Dieu qui vous résiste ou est-ce que c'est le diable qui vous attaque? Vous voyez? Si vous êtes une personne indépendante, qui ne dépend pas de Dieu pour tout, c'est-à-dire, je vais vous choquer, qui dépend de Dieu dans son église, parce qu'on ne peut pas dépendre de Dieu sans être dans son église. Il est venu pour construire son église. Et vous n'aimez pas chanter la chanson de l'église invisible, où moi je fais partie de l'église de Dieu dans ma cuisine, tout seul devant mon frigidaire, à vous raconter des histoires là. Et la communion fraternelle dans laquelle il persévérait au départ, c'est comme ça l'Église. De mettre tout en commun, c'est ça l'Église. Alors, si vous êtes une personne indépendante qui ne dépend pas de Dieu pour tout dans son Église, si vous comptez sur vous-même et sur les autres pour vous en sortir plutôt que sur Dieu et Dieu seul, eh bien vous êtes seul dans vos problèmes. Vous êtes seul dans vos problèmes, Dieu ne peut pas vous soutenir, c'est pas possible. Je vais vous raconter une histoire, peut-être qu'on vous l'a jamais dite comme ça. L'histoire de l'homme à la piscine, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est Bethesda, c'est ça? Ou Siloé, non, c'était Bethesda. Il attendait un miracle. Il se passait des miracles là. Un ange qui venait, qui secouait l'eau, et le premier qui se jetait dans l'eau, il était guéri. Donc c'était un homme spirituel qui avait la foi, puisqu'il attendait un miracle. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour le jeter dans l'eau, puisqu'il était paralytique, il ne pouvait pas le faire lui-même tout seul. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire, et vous avez besoin des autres. Vous avez besoin des allocations, vous avez besoin de ce que vous avez besoin de ça. Dieu n'est pas vraiment le numéro un dans votre vie. Bien sûr, il y a une partie miracle, mais il y a aussi cette partie humaine. Dieu est un Dieu jaloux. Beaucoup de chrétiens sont comme lui, ils attendent un miracle, mais avec une aide humaine. Et cet homme, il a poireauté là 38 ans. 38 ans. Jusqu'au jour où il a écouté Jésus. Il ne faut pas me dire qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus, la réputation de Jésus, elle était partout. Mais plutôt que de chercher à trouver le moyen d'être conduit jusqu'à Jésus, ben, il trouvait le moyen d'être conduit jusqu'à la piscine, où il y avait un ange. Vous voyez ? Espérer dans vos allocations, espérer sur l'aide des gens, ça peut nous dépanner momentanément, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais l'humilité, c'est de ne compter que sur Jésus seul. Quand Jésus est arrivé, ben, il était guéri. Parce qu'il a écouté, il a cru. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. 18 ans. 18 ans. Elle a souffert 18 ans, dépensant tout son argent pour résoudre son problème vers des médecins. Ah, excusez-moi, mais à l'époque, ce n'était pas les médecins qu'on a aujourd'hui. Hein. 18 ans, jusqu'au jour où elle a mis sa foi dans Jésus seul. Hein. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et elle a été guérie. 18 ans, c'est peut-être là que se cache votre orgueil de vouloir vous en sortir tout seul, ou grâce à votre argent, ou grâce à certaines personnes qui peuvent vous aider à vous jeter dans la piscine, ou ceci ou cela. Peut-être que vous êtes comme l'homme de la piscine qui comptait sur un miracle. Un ange qui secoue l'eau, mais c'est un miracle, c'est extraordinaire. Mais son attente était mélangée, vous voyez ce que je veux dire ? Il lui fallait une aide humaine, je le répète, et en cela, il n'était donc pas intègre. Qu'est-ce que ça veut dire intègre ? Intègre, ça veut dire entier. Bien que spirituel, il n'était pas entier. Mais quand même, il vivait au temps de Jésus. Jésus était sur la terre, tout le monde pouvait le voir. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même situation. Alors vous êtes 38 ans ou 18 ans dans la détresse et dans l'angoisse, et vous ne pouvez donc pas dire comme Paul, je me plais là-dedans. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire, je me plais dans ma souffrance, je me plais dans les faiblesses, dans mes infirmités, dans mes angoisses. Non, lui, il pouvait s'y plaire, mais pas vous. Si vous êtes dans le cas des mélangés, là, comme ça. Parce qu'il savait, lui, que tout cela, toute cette misère, toutes ces persécutions, toutes ces souffrances, je dirais même toutes ces maladies qu'il avait, eh bien, c'était au service de Dieu, c'est parce qu'il servait Dieu. C'était très différent. Il se rendait malade en servant Dieu, se privant de nourriture, se privant de sommeil, étant en souci continuellement à cause des églises, persécuté par ceux du dehors, persécuté par ceux du dedans, critiqué, jugé. Servir Dieu, c'est commencer par être fidèle à Dieu. Voilà. Ça, je ne doute pas que vous êtes fidèle à Dieu. Je ne doute pas. Mais comment pouvez-vous prétendre être fidèle à Dieu alors que vous n'êtes pas fidèle aux gens? Ça, c'est une question. Comment peux-tu dire, je vais vous le servir comme c'est écrit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas les gens que tu vois? Et puis maintenant, je vous dis, comment peux-tu prétendre être fidèle à Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'es pas fidèle aux gens que tu vois? Vous voyez? Vous allez peut-être me dire que je vous gave, que je vous gonfle avec Raphaël le Gitan. Mais voyez-vous, j'ai été fidèle à Raphaël, l'homme qui m'a conduit à Dieu jusqu'au bout. On n'était pas d'accord sur tout, ça c'est certain, mais nous nous aimions. Nous nous voyons souvent, tous les 10-15 jours. On passait du temps ensemble, on allait au resto ensemble, on priait ensemble, on parlait ensemble. Il n'y avait pas de ressentiment entre nous au sujet des choses sur lesquelles nous n'étions pas d'accord. Nous nous aimions. J'aurais jamais osé lever la langue contre cet homme dont Dieu s'était servi pour me conduire à la conversion. J'aurais jamais osé. Oh, Aaron et Myriam, ils ont osé lever la langue contre Moïse qui les avait sortis du pays d'Égypte. Mais quel crétin! Être fidèle à Dieu sans être fidèle aux gens, ben c'est une hérésie. C'est une idiotie, c'est une hypocrisie, c'est de l'orgueil. Alors, faites le point. N'avez-vous pas besoin de vous humilier? Vous pensez que c'est le diable qui vous attaque, mais vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui vous résiste. C'est Dieu qui vous résiste. Je ne dis pas que c'est votre cas à vous, mais c'est très possible. En tout cas, c'est bien le cas de quelques personnes qui écoutent ce que je suis en train de prêcher. Faites le point. Entrez en vous-même et cherchez, dites Seigneur, est-ce que Michel a raison? Est-ce que c'est toi qui me résistes? Est-ce que moi je croyais que c'était le diable qui m'attaquait, mais peut-être c'est toi qui me résistes, mon Dieu. Éclaire-moi, montre-moi si j'ai oublié des choses, si je n'ai pas été correct dans certains points. Parle-moi, montre-moi. Soyez humble, faites-le. Vous avez tout à y gagner de le faire. Je parle fort comme ça, mais c'est pour que ça rentre. Parce que c'est de l'amour. Je veux que vous vous en sortiez de votre problème, mais seulement avec Dieu. Pas en vous illusionnant. Repentez-vous, demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Comme je vous dis, vous avez peut-être offensé quelqu'un en vous croyant très spirituel, en citant des versets bibliques comme les amis de Job. Ou vous avez fait des prophéties en pensant être spirituel, alors que c'était simplement des gens qui vous avaient influencé, puis vous avez ça gambergé dans votre tête, puis vous en avez rêvé, puis vous avez pensé ça pour un songe. Soyez humble. L'homme de la piscine, il était spirituel. Il attendait un ange. Il était spirituel. On peut avoir une spiritualité, mais ça ne signifie pas qu'on est humble. Je vais m'arrêter là. Vous allez y réfléchir. Et vous allez faire ce que vous avez à faire. Faire ce que vous avez à faire, c'est peut-être simplement de prendre votre téléphone, appeler la personne avec qui vous êtes en conflit, puis lui dire, écoute, je ne veux pas discuter, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je te demande pardon. Excuse-moi, je ne cherche pas à renouer contact ou à faire des salamalek et puis à essayer de me rabobucher avec toi, puis de refaire des trucs avec toi. Simplement, ce que je veux, c'est te demander pardon. Est-ce que tu me pardonnes? Voilà, c'est tout. C'est peut-être que ça que vous avez besoin de faire, d'être humble. Humiliez-vous, l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir, à bientôt. Dieu vous garde.